Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 décembre, date à laquelle est célébrée chaque année la Journée internationale des personnes handicapées. Depuis sa proclamation en 1992 par l'ONU, cette journée œuvre à la promotion des actions de sensibilisation sur les questions liées au handicap. C'est une occasion importante de sensibiliser à la complexité des personnes, des problèmes d'invalidité et aux défis auxquels font face les personnes handicapées du monde entier. Le thème de cette année met d'ailleurs l'accent sur l'autonomisation et leur inclusion dans la société. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un milliard de personnes, c'est-à-dire environ 15% de la population mondiale, est concernée. En France, selon l'INSEE, 12 millions de Français environ sont touchés par un handicap. 1,5 million de personnes est atteinte d'une déficience visuelle et 850 000 ont une mobilité réduite. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on s'interroge sur la place des personnes ayant un handicap dans notre société. Les lois progressent dans de nombreux pays, les organisations internationales communiquent et mènent des campagnes sur l'inclusion de ces personnes pour un meilleur accès à la scolarisation, à l'emploi. Mais la vie des personnes handicapées s'améliore-t-elle pour autant ? Pour cette émission spéciale, nous accueillons des invités d'exception qui ont accepté de venir témoigner au micro de RFI. Bonjour Mouna. Vous êtes atteinte d'une maladie rare de la vision et vous êtes étudiante en droit. On va justement y revenir. Bonjour également à Edgar.
Bonjour.
À Edgar, alors vous êtes atteinte d'une maladie rare des muscles et vous rêvez de devenir réalisateur.
C'est ça.
Et bonjour à vous, Anne Juventoni-Bernadou. Bonjour. Vous êtes coach thérapeute familiale, mère de deux enfants dont l'une est atteinte d'une maladie orpheline et de troubles de la sphère autistique. Vous êtes également auteur de l'ouvrage « Accueillir un enfant différent en famille, la résilience familiale face au handicap » aux éditions Erol. Et nous irons en Guinée pour recueillir le témoignage de Boubacar Sanso Barry, journaliste guinéen, administrateur général du site d'info lejelly.com et atteint également d'un handicap moteur. N'hésitez pas à nous appeler, le numéro de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Alors Mouna, première question d'abord, comment allez-vous ?
Je vais bien, merci.
Vous êtes atteinte de ce qu'on appelle l'amaurose de Leber. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est cette maladie ?
Alors, l'amaurose de Leber, c'est une forme de rétinite pigmentaire. En gros, je vois comme si vous voyez à travers le trou d'une paille ou le trou d'une serrure.
Et vous avez bénéficié d'une thérapie génique en 2012. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien depuis l'opération ? Qu'est-ce qui a été amélioré ?
Ça a permis de stopper la progression de la maladie, ce qui est énorme. Et ensuite, ça a amélioré aussi un petit peu le champ de vision. Donc, ça s'est amélioré surtout dans mes déplacements. C'est un petit peu plus fluide. Et dans ma vie quotidienne, j'arrive à observer un petit peu plus de choses.
Et vous êtes accompagnée d'une personne dans vos déplacements ?
Des fois oui, des fois non. Par exemple, à l'université, je me déplace seule. Ou alors, quand je vais à Toulon, je me déplace aussi seule.
Justement, vous êtes étudiante à l'université. On ne compte d'ailleurs que 1 à 2% hein, d'handicapés. Bravo d'ailleurs à vous, Mouna. Vous avez obtenu votre Master 2 il y a 2 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et que faites-vous actuellement ?
Actuellement, je suis en doctorat. Donc, je prépare une thèse et okay. Je suis au tout début encore.
Au tout début, c'est le début. Oui. On a également Edgar qui est avec nous. Il est aussi étudiant, en tout cas, il a étudié le cinéma, lui. Et il est également atteint de ce qu'on appelle l'amyotrophie spinale. C'est une maladie neuromusculaire évolutive. on a parlé dans le jargon des médecins un petit peu, finalement, qu'est-ce que c'est concrètement, Edgar?
C'est une maladie qui touche donc mes muscles à partir de ma colonne vertébrale, donc qui m'empêche de marcher et qui en fait empêche tous mes muscles de bien fonctionner. Et donc du coup, ça, c'est dégénératif, évolutif, comme on veut. Et donc en fait, c'est une maladie qui va faire que j'ai moins de force, donc ne pas marcher, mais aussi un pas très bon usage de mes bras et compagnie.
Et comment vous traitez la maladie ?
Alors, c'est une maladie qui n'a pas de traitement en termes médicaux. Elle a un traitement qui arrive, mais qui n'est pas fait pour guérir. Il est fait un peu pour stopper les effets de la maladie. C'est un peu le but recherché dans plein de maladies. Et donc, du coup, sinon, au jour le jour, on peut améliorer le quotidien en ayant des séances de kiné, en utilisant des machines pour la respiration, par exemple. Voilà, c'est tout un tas de petites choses
que,
médicales.
Que vous faites ? Vous faites de la kiné, du coup ?
Moi, j'en fais pas beaucoup. Je suis un peu un mauvais élève dans ce cas-là. Mais oui, en général, c'est ce qu'on fait pour justement améliorer le quotidien.
Et vous rêvez d'être réalisateur, c'est bien ça ?
Ouais, alors là, du coup, c'était un rêve. Maintenant, je le touche quasiment du bout des doigts. Ouais, donc j'ai décidé de faire ça depuis que je suis assez petit. Et voilà, j'ai fait une école de réalisation dont je viens d'être diplômé, là, il y a quelques mois.
Félicitations.
Et merci beaucoup. Et voilà, du coup, maintenant, je suis dans le métier et j'essaie de faire mon chemin.
Comment, justement, s'est déroulé votre cursus ? Alors, d'abord, pourquoi le choix du cinéma, peut-être ?
Je pense que c'est aussi dû au Téléthon, parce que j'ai pas mal été sur les plateaux télé, même dans le public ou en invité. Et c'est quelque chose qui m'a toujours bercé dans mon enfance. Et puis ensuite, je voulais faire un métier dont j'étais capable physiquement et puis qui m'intéressait en termes d'inventer des histoires, écrire des choses, partager avec d'autres gens. Donc du coup, c'est ça qui m'est venu à l'idée. Et du coup, je me suis accroché, je l'ai fait.
C'est très bien. Et du coup, cette école de cinéma à Nice, c'est bien ça ?
C'est ça.
Comment s'est déroulé votre cursus ?
Alors mon cursus, avant l'école de cinéma, c'est une école classique, normale. Et ensuite, à l'école de cinéma, c'était un peu plus compliqué, parce que les locaux n'étaient pas forcément accessibles pour moi qui suis en fauteuil roulant, du coup. Et ensuite, j'ai essayé d'avoir un cursus plutôt classique. C'est un peu mon mot d'ordre tout le temps, c'est d'essayer de me fondre un peu dans la masse, même si c'est un peu impossible. Donc voilà, donc j'ai pas mal réussi. En tout cas, je suis sorti comme les autres, on va dire.
On va continuer de parler justement de votre quotidien et de vos parcours à tous les deux. On a également avec nous aujourd'hui Anne Juventoni Barnadou. Vous avez rédigé un livre autour de cet handicap. Vous avez une de vos filles qui est atteinte d'une maladie rare. Alors vous d'ailleurs, vous n'appréciez pas le terme enfant handicapé, si je ne m'abuse. Vous préférez le terme porteur d'handicap.
Oui, pour les enfants comme pour les adultes, je trouve que quand on rajoute handicapé, c'est définir la personne par son handicap. Et finalement, l'handicap, c'est un attribut parmi d'autres. Donc, je préfère utiliser le mot, effectivement, avoir un handicap ou être en situation de handicap.
Vous, votre fille a justement un handicap et il a été découvert quelques années après sa naissance.
Oui, tout à fait.
Quel sentiment gagne un parent quand on annonce justement que son enfant est malade ? Est-ce que, alors vous, je sais que votre parcours est très, très spécial parce qu'on vous l'a annoncé de façon brutale.
Oui, tout à fait.
À quoi on pense en tout premier ?
Je crois qu'on pense à rien, c'est un effondrement en fait. Il y a une espèce de vide, le cerveau nous protège un peu, je crois, de l'effondrement physique. Et encore, dans mon livre, je parle d'un papa qui, lui, physiquement, va s'effondrer quand on va lui apprendre la nouvelle. Non, c'est comme dans tous les traumas, c'est-à-dire c'est un choc absolu. Et au début, c'est un espèce d'hébétement en fait. Et puis petit à petit, il y a d'autres émotions plus violentes qui viennent s'installer. D'abord la dépression, c'est vrai que on essaie le désespoir, le premier sentiment. Dans mon livre, j'ai écrit le lendemain de l'annonce du handicap de ma fille.
Oui, vous utilisez des mots d'ailleurs violents, larmes, vomir, fuir, mourir, disparaître,
ouais.
Oublier, mentir, ce sont vraiment des mots très très difficiles.
Ah oui, c'est très très dur, c'est vraiment, c'est le sol en fait qui s'ouvre sous vos pieds, quoi. C'est vraiment ça.
Et au moment de l'annonce, est-ce que vous partagez cette nouvelle avec votre famille ?
franchement, non, c'est très solitaire. Hein. Je vais le partager avec très peu de mots. Et comme je suis dans une famille qui est assez pudique, je crois que le silence va très vite s'imposer.
Et vous êtes justement, vous coach et thérapeute. Alors quand vous recevez des gens qui vous parlent justement de cette nouvelle annonce et de cet handicap qui entre dans leur famille, vous donnez quel type de conseils ?
En fait, je crois qu'il faut d'abord beaucoup les écouter. C'est-à-dire qu'on nous écoute très très peu. Il y a un temps qui n'est pas un temps autre que d'accueillir en fait voilà, les émotions. Et il n'y a pas grand-chose à dire dans cette période-là, il faut juste être là. Donc il faut des mois, voire des années hein, pour commencer à rentrer dans quelque chose où on peut entendre un conseil. Donc moi j'essaye déjà juste d'entendre la souffrance, de laisser la possibilité de s'exprimer, c'est déjà beaucoup.
Vous dites d'ailleurs dans votre livre, je cite, hein, « L'instinct de vie est plus fort que tout, il faut continuer d'avancer », c'est un vraiment beau message. « L'inclusion de la personne en situation de handicap nécessite le soutien de la famille », on le voit. D'ailleurs Mouna est accompagnée de sa maman. Alors, comment on s'organise, comment on réorganise la famille avec l'accueil d'un enfant handicapé ?
En fait, c'est un peu comme sur un champ de bataille. Hein, donc là, vraiment, dans un premier temps, on fait face, en fait. Hein, donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment une méthode. Très rapidement, on voit tout ce qu'il va y avoir à faire. Souvent, il y a beaucoup d'accompagnement chez des professionnels. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller voir des kinés, il faut aller voir des ostéopathes, il faut aller voir des psychomotriciens. Enfin, la liste est longue. On devient un grand spécialiste de plein de choses dont on ne savait même pas qu'elles existaient. Donc, bon, on va se partager les tâches. Il faut reconnaître quand même que très souvent, c'est la maman hein, qui va en assumer une grande partie, qui va devenir la coordinatrice des soins, la spécialiste. D'ailleurs, j'encourage hein, toutes les mamans à leur dire, vous savez, c'est vous êtes la meilleure spécialiste de votre enfant avec le papa. Ayez confiance en vous parce qu'on voit tellement de professionnels qui nous disent tellement de choses qui parfois sont
contraires. Mais ça a été le cas pour vous puisque Julia, votre fille, on lui avait dit qu'elle n'allait pas marcher.
Oui.
Et finalement, elle l'a fait.
Et oui. Comme quoi, il faut parfois savoir suivre ses intuitions et pas toujours écouter les pronostics des médecins.
Et comment vous organisez votre quotidien ? Vous avez continué le travail ?
Alors, j'ai continué à travailler. Alors, évidemment, il y a eu des périodes où ça a été plus ou moins intense. Enfin, comme je suis à mon compte, j'ai essayé de gérer à chaque fois en fonction des besoins de ma fille. J'ai jamais arrêté. Je me suis posé la question, mais c'est un tel isolement social quand on s'arrête de travailler avec un enfant qui a un handicap que j'avais la chance de pouvoir continuer d'être entourée de personnes qui m'ont aidée à prendre le relais et je regrette vraiment pas ce choix.
C'est un beau témoignage. Je vous vois acquiescer, Edgar, notamment au niveau des rendez-vous.
Ouais,
l'organisation au quotidien est difficile.
Oui, il y a beaucoup de choses, juste surtout dans l'idée de la famille. Pour nous, c'est les aidants, c'est les premiers aidants du coup. Et puis en plus, nos parents, moi, ma maman, mon papa, c'est les. Enfin, moi, je n'étais pas conscient d'être malade ni handicapé. C'est eux d'abord qui ont assumé la nouvelle. Moi, j'étais tout bébé, j'avais 1 an quand ils l'ont su. Ma maman, ils ont eu des doutes très rapidement par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est vraiment les premiers aidants. Et ouais, mon premier docteur, c'est peut-être ma maman. C'est peut-être elle qui sait déjà si j'ai quelque chose de grave ou de pas grave. Ou j'ai parfois même pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça. Après, c'est un quotidien qui s'inscrit dans notre quotidien à nous. On est habitué à ça. Moi, quand je vais à l'hôpital, ça me paraît pas incroyable, quoi. Ça me plaît pas, mais ça me paraît pas incroyable. Et je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit très compliqué d'aller à l'hôpital et que ce soit pas normal. Donc, c'est vraiment un quotidien différent. On s'y habitue vite et on s'y fait. C'est vraiment un attribut d'être handicapé ou malade. C'est pas du tout une conséquence, un problème pour nous. Pour moi, c'est vraiment un attribut. Ça fait partie de moi, de ma personnalité, du coup, et de mes choix, du coup. Ça oriente beaucoup ma vie.
Mouna, une réaction, je vous vois, vous voulez réagir effectivement sur cette idée d'entourage et d'aidants qui sont finalement d'abord la famille, tout simplement.
Oui. Oui, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de chance d'être avec une famille qui m'entoure et en même temps qui me traite comme une personne avant tout. Je veux dire, on voit pas en premier mon handicap, mais ma personnalité. Je vois par exemple ma mère, si je fais une bêtise, elle me punira tout autant que mes frères et sœurs, bon, quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'est ce qui rend les choses aussi plus faciles. Moi, c'est grâce à ma mère que j'ai pu avoir une enfance et une adolescence ordinaire. Et comme le dit Edgar, c'est vrai que pour moi, le handicap, c'est un paramètre. C'est pas... c'est pas quelque chose ni de pesant, ni de... C'est un paramètre qu'il faut faire avec. Il faut vivre, il faut continuer à avancer. Et je pense que c'est grâce à mon entourage et notamment grâce à ma mère.
Merci beaucoup aux mamans qui aident et aux aidants qui sont là. Je vois la maman de Mouna.
Et aux frères
sourire.
Et sœurs aussi.
Et aux frères et sœurs. En parlant justement des frères et sœurs, Anne-Juventonie Bernadou, vous avez une autre fille qui, elle, n'a pas de handicap. Comment elle a accueilli cette nouvelle? Comment se passe la relation entre Julia et sa grande sœur?
Elle se passe merveilleusement bien, en fait, comme deux sœurs. Il n'y a vraiment pas de différence à ce niveau-là. Elles ont 4 ans et demi d'écart, donc quand on a commencé à faire les investigations pour la maladie de sa sœur, elle avait 6 ans. Donc on lui a très vite dit que sa sœur avait un problème, mais que par contre, il n'y avait pas de risque vital. Hein. Et donc elle en a été très contente. Et puis après, on a répondu à ses questions au fur et à mesure. Pour elle, sa sœur, elle avait 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, comme elle dit d'ailleurs dans le livre.
Oui.
C'était tout à fait suffisant pour être une petite sœur. Et elle a vécu le handicap comme une caractéristique parmi d'autres. Et même aujourd'hui, elle a des amis qui s'aperçoivent que sa sœur a un handicap tardivement, parce que pour elle, c'est un non-événement, en fait. Ça fait partie de sa vie. Quoi.
Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui est un peu en train de se dire, et c'est rappelé dans le livre, on a un témoignage d'un papa, le papa de Florian, qui nous dit que c'est peut-être nous qui ne sommes pas normaux, finalement. Les plus heureux, c'est eux.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est difficile d'entrer dans le monde du handicap parce qu'on a tellement de représentations sur la normalité. On associe ça forcément à quelque chose de négatif. Mais moi, ça m'a ouvert énormément de perspectives finalement d'aller au-delà des apparences, au-delà de la norme. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires et c'est tellement plus d'humanité, tellement... Enfin voilà, je pense qu'on ne parle pas assez de cette expérience de vie et de ce qu'elle nous ouvre.
En parlant d'expérience, Edgar sourit, oui, je le vois. Cet handicap a facilité des rencontres, justement. Il y a des gens qui vous aident. Alors, on a parlé des parents, bien évidemment, le premier entourage. Il y a aussi, pour vous, Jean-Paul Rouve, l'acteur et réalisateur.
Ouais, le handicap, pour moi, du coup, c'est plus qu'une chance, au final. J'aurais jamais eu la même vie avec ou sans handicap. C'est vraiment tout différent. Grâce au Téléthon, j'ai rencontré Jean-Paul Rouve, c'était il y a 3 ou 4 ans. On avait fait un reportage où il était venu découvrir mon quotidien. Et de là, moi, je savais que je voulais faire une école de réalisation. J'allais rentrer dans l'école. Et il m'a fait la promesse de me dire, je vais te faire venir sur un de mes plateaux. Il l'a fait, parce qu'il est vraiment comme ça. Il tient toujours ses promesses. Et puis voilà, il est vachement franc avec moi. C'est pour lui, il veut bien m'ouvrir beaucoup de portes, mais si je suis bon, je réussirai. Et si je suis pas bon, je réussirai pas. Il y aurait pas de passe-droit, tout ça. Mais il fait attention à ce que je puisse avoir les mêmes chances que tout le monde. Donc c'est un peu remettre la balance à l'équilibre. Mais c'est un peu ça, en fait, le handicap. C'est que on a beaucoup de choses qui sont pas possibles, mais on en a tellement d'autres qui s'ouvrent que si on regarde bien, au final, on est à égalité par rapport aux autres. C'est juste une façon de voir les choses et de donner la chance aux gens de bien le percevoir. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'avantages. C'est pas forcément que ça peut donner de la jalousie, tout ça, mais ça peut créer un malaise par rapport aux gens qui comprennent pas pourquoi, forcément, on a certains avantages au quotidien, ou même un peu moins dans le quotidien, mais en recul. Et en même temps, il faut leur ramener à la raison que on est quand même en situation de handicap, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes moyens, mais du coup on a d'autres moyens et c'est ça qui nous ramène à leur égalité. Mais moi, c'est vrai que jamais je pourrais dire que je regrette d'avoir une maladie et d'être handicapé.
Voilà, il faut positiver aussi, c'est un petit peu le message qu'il faut donner. Edgar, tout à l'heure vous nous aviez dit qu'il y avait eu quand même quelques difficultés lors de votre cursus à l'école de cinéma notamment. Et quelles étaient ces difficultés?
Le truc le plus bête qu'on peut avoir quand on est en fauteuil, ça veut dire des locaux pas adaptés, donc des marches, tout ça, et puis une école avec un étage où il y a pas d'ascenseur.
Comment vous faisiez?
Alors j'avais une chance, c'est que l'école était sur une rue qui était en pente, donc en fait en montant la pente par l'extérieur, on arrivait à l'étage, mais il fallait passer par des portes dérobées, toujours avoir des systèmes plus compliqués, avoir de l'aide. Enfin, c'est le plus gros problème, c'est ça, c'est que ça m'empêchait d'avoir une autonomie totale. Déjà que j'avais fait le choix de ne pas avoir quelqu'un pour m'aider à écrire les cours.
Vous aviez la possibilité de l'avoir, mais vous n'avez pas
ouais,
choisi.
Ouais, alors c'était plus compliqué parce que je sortais du cursus classique, parce que c'était une école privée. Donc c'était plus compliqué, c'était encore un combat à mener. Déjà que c'est compliqué d'avoir des aidants à l'école classique parce qu'il n'y en a pas assez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer parce que si, justement, vous disiez qu'il y avait, je crois, 1%, c'est ça de...
1 à 2%.
1 à 2%, et ben, c'est clairement aussi à cause de ça. Parce qu'on est, au jour d'aujourd'hui, pas accompagné dans nos études. C'est pas possible. Moi, je vois des parents qui sont même prêts à venir en classe avec leurs enfants pour qu'ils puissent suivre des études. Parce que c'est un droit naturel et c'est ce qu'on devrait avoir le droit de faire. Parce qu'on n'est pas plus bête ou on n'est pas moins capable que d'autres. Donc moi, après, je suis passé par-dessus ces difficultés-là de marche, tout ça. Et ensuite, ben, c'était tout à fait autonome. Puis j'ai eu des camarades de classe assez exceptionnels qui étaient les premiers à m'aider à mettre des rampes, à ouvrir des portes.
Mouna, vous aussi, vous avez étudié, vous cette fois à l'université. Vous avez passé votre master, là vous faites votre doctorat. Mais comment ça s'est passé, votre cursus scolaire? Comment vous prépariez les cours?
Alors, les cours, j'avais... En même temps, je les prenais avec ma machine en braille, mais comme des fois je pouvais pas tout prendre, donc j'avais aussi un preneur de notes. Mm-hmm. Après, pour en revenir avec les pour les études universitaires, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que c'est pas comme à l'école primaire ou au collège où on est un petit peu plus entouré, où les règles sont mieux respectées. Mmh. Alors que arrivé à l'université, comme disait Edgar, il y a moins d'aménagement, il y a moins d'aidants, c'est un peu plus compliqué. Après, ça veut pas dire que c'est impossible.
Bah, la preuve,
voilà.
Vous avez réussi, Mouna. Oui. Il y a la mission handicap, la structure, on sait que dans les universités, qui aide les étudiants en situation de handicap. Est-ce que cette mission handicap a participé à votre cursus à l'université?
Oui, elle a participé à mon cursus. Et c'est vrai que pour les aménagements, par exemple, pour l'aménagement des examens, avec le secrétariat d'examen qui m'aide surtout à lire les articles des codes, parce que les articles des codes c'est pas...
Ils sont disponibles en braille?
Ils sont disponibles en braille, mais c'est des volumes assez élevés et pour le temps de lire, ça prend énormément de temps. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est plus facile si je demande au secrétaire d'examen de me lire tel article. Mais c'est vrai que ce qui est le plus difficile, c'est surtout la retranscription des documents. Ça demande plus de temps, ça demande plus d'énergie, mais après, voilà, malgré ça, malgré tout, voilà, il y a des obstacles, mais il faut les contourner. qu'on arrive à les contourner, après ça va.
Et là, vous faites un doctorat. Et quels sont vos projets du coup?
J'aimerais bien enseigner. J'aimerais bien enseigner à l'université. Mm-hmm. C'est vraiment ça, c'est un rêve depuis un bon moment d'enseigner. J'ai toujours voulu transmettre le savoir. Mm-hmm. Et j'aimerais bien également défendre aussi.
Vous avez passé le barreau? Vous voulez passer le barreau?
Je l'ai passé, mais mm-hmm. je ne l'ai pas eu. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je me suis orientée
vers l'enseignement.
Vers l'enseignement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis orientée dans le droit, parce que j'ai toujours aimé défendre les causes injustes.
Mm-hmm. On va tout de suite passer à notre auditeur qui est en ligne de Guinée. Il nous appelle de Conakry.
RFI à Conakry,
89.9 FM.
Et nous retrouvons en Guinée Boubacar Sanso Barry, journaliste administrateur général du site d'info Le Djeli. Il est atteint d'un handicap moteur. Bonjour Boubacar.
Bonjour Jara, bonjour à tous les auditeurs.
Boubacar, aujourd'hui c'est la journée mondiale des personnes handicapées. Qu'est-ce qui est organisé en Guinée?
Alors, il y a une cérémonie officielle qui est prévue sur un espace ici qu'on appelle la Blue Zone, où notamment on va présenter la loi, la promotion et la protection des personnes handicapées qui a été adoptée lors de la dernière session parlementaire, session des lois.
Vous êtes, vous, concerné hein, par cette question du handicap. Vous avez perdu l'usage de vos jambes depuis l'âge de vos 4 ans, c'est bien ça?
Oui, depuis l'âge de 4 ans. À l'époque, mes parents et moi, nous étions en Sierra Leone. Subitement, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Les gens ont essayé au niveau médecine moderne. Ça n'a pas forcément marché. Ensuite, ils se sont repliés vers les tradis praticiens, parce qu'il faut dire aussi que quelquefois le handicap est associé à certaines conceptions, telles que c'est le sorcier, telles que c'est le diable. Les gens ont été de ce côté aussi, mais voilà, malheureusement, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, du coup vous êtes toujours en fauteuil roulant depuis l'âge de vos 8 ans?
Oui, depuis l'âge de mes 8 ans, je suis en fauteuil roulant. Et ce qui m'a permis d'aller à l'école, de suivre un cursus normal et de sortir à l'université avec un diplôme de maîtrise en sociologie.
Alors, on parlait des difficultés scolaires avec nos invités en plateau. Est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à des difficultés durant votre parcours?
Je pense que par ici, les difficultés sont encore plus évidentes parce que, Rien n'est adapté au handicap, qu'il s'agisse des immeubles, qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse des espaces publics, rien du tout n'est adapté au handicap. Du coup, on est obligé, par exemple, pour quand moi je faisais notamment le lycée et l'université, c'était quelquefois au niveau des immeubles à des niveaux, il fallait donc naturellement gravir les escaliers à quatre pattes. Voilà, mais je n'avais pas le choix, j'ai dû le faire parce que c'était le sacrifice à consentir pour pouvoir faire les études.
Donc au niveau même des infrastructures, la situation des personnes handicapées n'est pas bien prise en compte. On compte d'ailleurs plus de 155 000 handicapés en Guinée.
Oui, et même cette statistique, je pense qu'elle est relativement biaisée. Parmi les personnes, en tout cas dans le milieu des personnes handicapées, on pense qu'il doit y avoir plus que ça. Mais dans les méthodes de recensement, vous savez que quand quelquefois les gens ont tendance à... Quand vous venez demander est-ce que dans la famille il y a des enfants handicapés, les gens ont tendance à dire qu'il n'y a pas de personnes handicapées parce qu'il arrive que les gens se gênent de déclarer qu'ils ont des personnes handicapées. Et puis les agents recenseurs ne sont pas toujours préparés à poser les bonnes questions pour dénicher entre guillemets les personnes handicapées au sein des familles.
Donc finalement, il y en aurait beaucoup plus que ces 155 000 dont parlent les statistiques guinéennes. Ça date de 2014, ça.
Oui, parce que vous savez que au niveau mondial, la statistique moyenne, c'est de 10 à 15% de la population globale. Mm-hmm. Ici, les 155 000 représentent 1,5% de la population. Vous imaginez?
Ça doit être très sous-estimé. Et Boubacar, vous avez réussi à surmonter les difficultés du cursus scolaire et de ces infrastructures défaillantes en Guinée. Vous êtes journaliste et administrateur général du site d'info guinéen Le Djeli. D'où est née cette passion pour le journalisme?
Alors, je pense que c'est né du goût de débat, du goût de la rencontre, du goût du contact. Je me suis dit que ce serait difficile de pouvoir assouvir ce goût-là dans un autre secteur qui ne soit pas le journalisme. Dans le journalisme, vous exprimez, d'autres ont l'occasion de vous contredire ou de vous approuver. Mais je dois dire que j'ai failli ne pas pouvoir faire le journalisme. Je me rappelle quand je faisais le lycée, j'en avais parlé à une de mes professeurs d'anglais qui m'avait tout de suite dit non, c'est pas réaliste. peut pas faire du journalisme parce que le journalisme, ça suppose que vous sortiez sur le terrain, ça suppose que vous alliez dans des zones inaccessibles, et même en dehors des centres urbains. Donc, c'est pas très réaliste. Et pour ça, en tenant compte de ce conseil, j'ai failli changer d'option. Quand j'ai été orienté en sociologie à l'université, j'ai tout fait. Je ne sais pas, on peut dire malheureusement ou heureusement, ça n'aurait pas fonctionné. Donc j'ai fait la sociologie et plus ou moins c'était proche du journalisme. Donc quand j'ai fini l'université, la passion est revenue et j'ai tapé à certaines portes et une d'elles s'est ouverte finalement.
Bravo à vous, et on sait que le métier demande quand même beaucoup de déplacements sur le terrain. Comment faites-vous face à cela?
Alors, je dois avouer que je me déplace peu sur le terrain. C'est d'ailleurs, si je dois avoir un regret dans ce secteur-là, c'est ça, parce que je n'ai pas toujours le temps d'aller sur le terrain, de faire comme les autres et d'avoir ces expériences singulières de terrain. Je n'ai pas toujours ça. Et quand c'est à Conakry ou dans certains centres urbains à l'intérieur du pays, je me déplace bien. Après avoir investigué, après m'être rendu compte que c'est possible avec quelques sacrifices, mais je dois avouer que pour le reste, je suis plutôt journaliste test, je suis au bureau. Maintenant que je suis administrateur, en même temps directeur de publication, je dois le préciser. Donc les reporters se déplacent sur le terrain. Aujourd'hui, par le biais d'Internet, ils m'envoient les articles que je corrige et que j'affiche.
Votre parcours professionnel est exceptionnel, hein. Quel est le principal frein à l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, selon vous, en Guinée?
Alors, je pense que dans le cas de la Guinée notamment, c'est globalement, hein, c'est la perception qu'on a du handicap. Les gens ne se disent pas que les personnes handicapées sont des personnes, en tout cas pas des citoyens, comme tous les citoyens guinéens. Là, du coup, en premier lieu, on ne les envoie pas, ce n'est pas les premiers qu'on envoie à l'école. Ensuite, on assimile un peu trop le handicap à l'incapacité, le handicap à l'oisivité. Du coup, même moi, quand j'ai fini l'université, je disais tout à l'heure que j'ai tapé à plusieurs portes, mais j'ai dû traîner pendant longtemps avant qu'un des employeurs n'accepte de me soumettre à un test et de réaliser qu'au-delà du handicap physique qu'on peut percevoir à mon niveau, il y a peut-être un potentiel à exploiter.
Est-ce que vous avez le sentiment justement que pour réussir, vous devez donner davantage pour faire oublier votre handicap?
Oui, je pense qu'il y a, comment je vais dire ça, on apprécie différemment la réussite selon qu'il s'agit d'une personne handicapée ou une personne entre guillemets normale. Moi, par exemple, je pense que là où je suis en tant qu'administrateur général, les gens peuvent se dire, voilà, ça y est, lui, c'est terminé, il a atteint le plafond. Alors que, comme toute personne ordinaire, j'aimerais bien progresser davantage, mais je pense que les gens n'intègrent pas ça souvent. On pense que ça y est, lui, il en est arrivé à un niveau que c'est pour lui, c'est le saint graal.
Vous dites d'ailleurs que le handicap n'est pas une fatalité. Comment vous avez accepté votre handicap et vous avez surmonté tous ces obstacles?
Alors, je pense que là aussi, c'est plus la famille. Hein. Ma famille m'a inculqué quand même un certain nombre de valeurs. Par exemple, jamais on ne mendie dans la famille, jamais on n'encourage non plus à la mendicité. Ensuite, quand je suis arrivé à l'école, je pense que le fait d'avoir commencé à lire des ouvrages, peut-être de très tôt comprendre par le biais de la télé, par le biais du cinéma, à savoir qu'au-delà de mon environnement à moi, et peut-être au-delà de l'environnement de la Guinée, il est possible qu'une personne handicapée réussisse comme toutes les autres personnes, je pense que ça a été de beaucoup dans l'acceptation de mon handicap et dans l'effort de son dépassement.
Oui, des efforts de dépassement qui ont payé, puisque vous avez été désigné meilleur journaliste de l'année en Guinée, c'était en 2014.
En 2000.
Pardon ?
En 2014.
En 2014, voilà. Et donc, on sait d'ailleurs que vous êtes souvent cité dans la revue de presse de RFI, la pertinence des analyses, la qualité de la rédaction et l'orientation éditoriale de Le Djellis sont autant de facteurs qui militent en votre faveur, il faut le dire. À qui vous avez dédié cette récompense en 2014, Boubacar?
Et à ma famille.
Et qu'est-ce allô que... Oui, allô? Qu'est-ce que ça vous a procuré comme sentiment?
Je disais à l'époque que c'est peut-être le signe que je suis accepté dans le milieu des journalistes en Guinée comme un journaliste ordinaire.
Et vous avez un lien avec un acteur, Fernando Sancho. racontez-nous pour conclure, Boubacar.
Oui, c'est de là ça. Comment je vais dire ça? C'est l'origine du surnom Sancho. C'est une déformation du nom de l'acteur de cinéma Fernando Sancho. Et voilà, je ne sais pas. J'avoue que je ne vois pas nécessairement le lien, mais c'est très tôt, c'est à bas âge, il y a quelqu'un qui a cru voir entre moi et cet acteur-là, je ne sais pas, des similitudes, une ressemblance, et qui a commencé à m'appeler Sancho. J'avoue que je me suis battu pour que ça ne se maintienne pas, mais je pense il fallait peut-être faire semblant de ne pas s'intéresser à ça parce que comme je me suis, voilà, la bataille n'a pas donné.
La bataille n'a pas donné. Un dernier message peut-être à lancer à nos auditeurs, Boubacar.
Alors, je dis que les États ont naturellement une grosse part de responsabilité dans la promotion, dans la défense des droits des personnes handicapées, mais je dis également que les États sont fruits de nos sociétés, c'est les individus pris isolement qui doivent faire en sorte de faire valoir les droits des personnes handicapées. Et quand ces mentalités vont progresser au niveau de la population, les États ne pourront pas faire autrement.
Merci beaucoup, Boubacar Barry. Je rappelle que vous êtes journaliste, administrateur général du site d'info Le Djellis et également atteint d'un handicap moteur.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on vient d'entendre le témoignage d'un journaliste qui a même été primé en Guinée et qui est pourtant handicapé depuis son très jeune âge. Mouna, quand vous entendez ce beau parcours, qu'est-ce que ça vous inspire?
Je me retrouve beaucoup dans ce qu'il a dit, surtout dans le fait d'aller au-delà de l'apparence pour voir les compétences. Et aussi dans le fait que le combat, il est plus difficile, mais que la victoire est plus savoureuse.
Une belle phrase. Edgar, vous voulez réagir?
Ouais, ce témoignage, il est bouleversant. En même temps, il est génial, mais on se rend compte que c'est déjà dur d'être handicapé ou malade. Mais là, c'est une réalité qui est tout autre de la nôtre. Et pourtant, il y a tellement de similitudes parce que c'est les mêmes problèmes que nous. Nous, on a juste la chance d'être en France, d'avoir plus d'infrastructures, plus de moyens, plus de gens pour nous aider. Donc, c'est vraiment, au final, une double chance d'être ici. Mais vraiment, c'est les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà, en plus, cette personne-là, elle est en fauteuil, comme moi. Donc, je vois doublement ces problèmes. Et je me dis que, ouais, vraiment, il a eu la chance d'être reconnu par ses pairs. Et je crois que c'est vraiment ce que, même moi, je recherche. Je pense qu'on recherche tous. C'est qu'en fait, à partir du moment où on a été reconnu par les autres, on a le sentiment, non pas d'avoir été accepté, parce que ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse, mais c'est le côté, voilà, au moins maintenant, j'ai pas besoin de vous expliquer, de vous prouver que je suis comme tout le monde. C'est même pas est-ce que je suis meilleur, est-ce que j'ai été le meilleur de telle année, non. Non, c'est juste que pour nous, quand on est arrivé à être le meilleur dans quelque chose, on a juste le statut d'être normaux, en fait. Donc, du coup, c'est un peu dur, mais en même temps, c'est ce qu'on cherche tous.
Le handicap n'est pas une fatalité, il l'a dit Boubacar. Et moi, j'ai vu qu'il y avait Albert Einstein qui était bègue, dyslexique, Thomas Edison de Walt Disney, des dyslexiques aussi. Il y a Grand Corps Malade qu'on cite aussi, qui boite. On a Jamel Debbouze qui est un comédien, qui a également un handicap. Mimi Mati qui est une personne de petite taille. Voilà, leur talent ne fait aucun doute. Et aujourd'hui, c'est ce que vous dites, Edgar.
Ouais. Alors, par contre, il y a un truc qui est assez différent. C'est que c'est dur pour ces gens-là qui sont dans le métier souvent depuis longtemps. C'est dur pour eux de pouvoir mettre en avant leur handicap. Ils l'ont souvent fait oublier. Si on parle de Jamel Debbouze par exemple, il cache ça et c'est son droit. Hein, je critique pas ça. Mais voilà, ça c'est la preuve en fait que nous-mêmes on peut pas assumer ça comme étant un de nos avantages, un de nos attributs. C'est quelque chose qu'on doit limite cacher. Alors, par exemple, Mimi Mati peut pas le cacher, Grand Corps Malade peut pas le cacher, des gens en fauteuil peuvent pas le cacher. Voilà, c'est un genre de truc qu'on peut pas faire. Mais c'est quand même fou de se dire qu'on doit ne pas le montrer pour réussir à prouver des choses aux gens et ensuite être reconnu.
Anne Duventenu, Bernadou, alors votre fille est encore petite, hein, mais la question de l'avenir aussi est importante.
Oui, la question de l'avenir, elle est importante pour tous les parents qui ont un enfant qui a un handicap. Et là, on parle du handicap physique, mais c'est encore plus prégnant dans la question du handicap mental, hein, parce que là, les possibilités d'autonomie, elles sont encore réduites. Donc, c'est un autre sujet, effectivement. Et c'est un sujet d'inquiétude pour tous les parents, hein, de se dire comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura une intégration, une véritable inclusion sociale et professionnelle, hein. C'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude, oui.
Edgar, est-ce que vous avez déjà réalisé un film ou commencé en tout cas?
Alors j'en ai réalisé dans mon école, donc c'est un peu, enfin c'est pas vraiment des films, du coup c'est des films d'école, donc on peut dire que j'en ai déjà réalisé.
Sur quel thème?
Alors moi bah du coup je suis vraiment baigné de ce que je vis, hein. C'est souvent des thèmes qui parlent de choses de la vie réelle, c'est vraiment ce qui m'intéresse moi, de parler de différences entre les uns et les autres. Après peu importe le sujet, peu importe les âges, les gens, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est vraiment la différence sociale ou entre les gens. Ça, je pense que je peux pas le cacher, c'est une chose
que vous avez envie de montrer.
Ouais, bah c'est vraiment un moyen d'expression comme un autre. Donc du coup, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant pour l'instant.
Pour casser un petit peu les stéréotypes.
Ouais, casser les stéréotypes et puis vraiment essayer d'ouvrir les yeux des gens sur des problèmes, c'est un peu des grandes phrases, mais c'est notre, notre but.
Vous avez un film préféré?
Moi j'ai un film préféré par rapport à moi, c'est Intouchable. C'est clairement ma vision du handicap en plus, une vision avec de l'humour, avec un été de pétillant, voilà, et montrer que, ouais, on a des dépressions, on a une vie pas facile, mais voilà quoi, c'est tout, on s'en fout, on rigole, on le prend bien, je suis le premier à faire des blagues. Et ça choque pas mal les gens, mais c'est plutôt ce qui m'intéresse. Donc voilà, ouais, c'est mon film référence. Après, il y en a tellement. Moi, je m'identifie trop dans les films. C'est un truc de fou.
D'où votre passion, peut-être, pour le cinéma. Mouna, je vous ai vu sursauter, là. Intouchable, alors. Vous appréciez?
Justement, c'est ça. J'apprécie Intouchable parce que l'aidant, en l'occurrence Omar Sy, justement prend les choses à la rigolade et fait de sorte de comment dire de prendre les choses avec de l'humour pour rendre les choses plus faciles. Et c'est ça justement le handicap, c'est pas parce que on a ce paramètre que qu'on ne peut pas rire, qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas aimer, qu'on ne vit pas une vie comme tout le monde. Donc ça fait partie de la vie en fait.
Ça fait partie de la vie et ça rend aussi heureux. Anne Juventini Bernadou, vous le dites beaucoup et vous insistez dans votre livre justement, c'est possible d'être heureux et vous êtes heureux.
Oui, tout à fait. Je dis, c'est pas parce qu'il y a un handicap dans une famille que pour autant on renonce au bonheur et même on le touche d'une manière très différente en fait et sans doute beaucoup plus authentique que dans d'autres familles où on ne sait pas quelle chance c'est. On célèbre les petites victoires et c'est vrai que c'est ça le bonheur. C'est aussi simplement de s'aimer et d'être aimé. Moi, je dis souvent, s'aimer et être aimé, ça, les personnes en situation de handicap, elles peuvent le faire comme nous.
Vous parlez beaucoup aussi de résilience, c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre. Comment on définit cette résilience?
La résilience, c'est la capacité à reprendre le fil de sa vie quand on a vécu un événement traumatique. C'est pas reprendre le fil de sa vie exactement comme il était avant, puisque très souvent, après un traumatisme, en particulier celui du handicap pour les personnes qui le connaissent ou pour les familles qui accueillent une personne en situation de handicap, c'est apprendre à danser sous la pluie, en fait. C'est-à-dire, voilà, les choses sont pas comme on avait prévu, mais malgré tout, il y a encore des choses qui sont possibles, elles restent à découvrir. Donc la résilience, c'est ça. Et la résilience, c'est la résilience d'une personne qui a un handicap, mais c'est aussi beaucoup la résilience de la famille. Dans tous les exemples qu'on a vus, quelque chose d'important, c'est que finalement, les personnes qui réussissent leur intégration, c'est celles qui ont réussi à vivre bien dans leur famille, qui ont été soutenues. Moi, c'est un combat que je mène aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on prend en compte la famille, parce que la personne qui a un handicap, elle vit d'abord dans sa famille, et même si elle va dans d'autres lieux. Si à cet endroit-là, il n'y a pas des personnes qui sont soutenues pour les aider, c'est très difficile, quoi. Quand on a en famille, quand on a des gens qui sont dans la dépression ou dans la colère face au handicap, comment peuvent-ils faire en sorte que leur enfant s'intègre dans la société? Et ça, c'est une chose qui est très importante. On devrait davantage soutenir les familles, et pas seulement avec des aides financières qui sont évidemment essentielles, mais avec un accompagnement psychologique.
Edgar, je vous en prie, allez-y.
Ouais, maintenant, c'est... En fait, je dirais que, si vous voulez, quand on est malade, handicapé, notre famille, elle est en première ligne, en fait. Elle est même devant nous. Moi, je suis jeune, donc j'ai pas été confronté directement à ça. Ensuite, on m'a habitué à aller au devant des problèmes que donne la maladie, le handicap. Mais si vous voulez, les aidants, moi, je connais beaucoup de familles qui n'ont pas accepté le fait d'avoir quelqu'un de malade en leur sein. Ils l'ont pas rejeté, mais ils l'acceptent pas. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas quelqu'un d'anormal, mais il est là le problème. Et donc, si vous voulez. Le message que j'aime transmettre aux gens qui ont un handicap, qu'ils soient lourds, qu'ils soient très légers, c'est en fait assumer ça. Parce qu'en fait, c'est rien. Au contraire, vous verrez que c'est une chance pour certains. Mais en fait, à partir du moment où vous l'assumez, vous rentrez dans un autre processus qui fait que vous rentrez dans un combat en vous, un combat à l'extérieur, un combat avec les autres. Mais vous n'avez pas un point de départ qui est négatif par rapport aux autres. Vous n'êtes pas en dessous des autres, et c'est le plus important. Il faut être positif, c'est dur au début, mais ensuite il faut réussir à se dire, voilà, bon, je suis malade, je suis handicapé, j'ai pas de chance par rapport aux autres au départ, mais maintenant je vais me montrer, et du coup je vais montrer aux autres qu'en fait, je suis comme tout le monde, et il faut avoir une motivation qui est 10 fois supérieure aux autres. C'est malheureux, mais il faut l'avoir, et c'est aussi pour ça que moi je suis motivé au jour le jour, parce que je me dis, il y en a peut-être plein qui sont en fauteuil, qui n'ont pas la chance de pouvoir être mis en avant, de pouvoir parler, de pouvoir être dans la rue, de pouvoir aller au contact des autres. Donc je me dis, autant le faire, autant occuper l'espace, moi je me déplace dans les transports, et j'ai pas honte de demander de l'aide, et je me dis, tous ces gens-là qui vont m'aider, si c'était la première fois qu'ils étaient en contact avec quelqu'un en fauteuil, ils vont peut-être en garder un bon souvenir, et la prochaine fois, quand ce sera quelqu'un d'autre, ils vont aller de l'avant, ils vont essayer. Et je rencontre plein qui sont déjà habitués au handicap, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc il faut occuper l'espace, il faut aller à l'école, il faut aller dans la rue, il faut vivre. Et c'est exactement ce que dit Mouna. Il faut vivre, parce que nous, on est des pionniers, en fait. En France, on a la chance d'avoir de quoi le faire, donc autant le faire. Prenons la chance qu'on nous donne. Et ensuite, on verra ce qui va arriver.
un beau message, Edgar, merci. Mouna, dites-nous, cette acceptation, c'est quand le mot handicap ne fait plus peur?
Justement, en fait, comme ce que disait Edgar, le tout, c'est d'assumer. C'est d'assumer le handicap. C'est vrai qu'au début, pour l'accepter, ça demande du temps. Il faut prendre ce temps, mais il y a deux choix. Soit on met en avant le handicap et on ne voit que ça, et ça permet de pas avancer. Soit on assume et on vit, et on fait ce que font les personnes de notre âge, et avec ça, rien n'est impossible.
Merci, ça sera les mots de la fin, Mouna.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre